malgré le bruit de la circulation qu'on entend toujours en fond, la circulation du boulevard Pinneuf essentiellement, peut-être du boulevard Rosemonde, du côté nord. Il reste que le parc avec ses milliers d'oiseaux, de grenouilles, de rainettes, chantent presque à toutes les heures du jour, mais surtout le matin. La circulation automobile et la circulation aérienne, car il n'y a pas beaucoup d'heures où on ne voit pas passer, on n'entend pas passer un ou l'autre avion dans le ciel, mais malgré ça, on a un petit sentiment, une odeur même de nature. Pour revenir à la question de l'assurance autonomie, telle que définie par le ministre de la Santé, qu'est-ce qui en restera après les prochaines élections? C'est peut-être la question principale. Jusqu'où la situation militaire du gouvernement québécois poussera-t-elle celui-ci à aller un peu plus loin à droite pour garder sa majorité? Jusqu'où en fera-t-il une pierre de touche de sa prochaine période? Quand on écoute le ministre, c'est comme s'il suffisait d'avoir des bons outils, une bonne grille d'évaluation des besoins, qu'on applique dans un contexte bien articulé de ressources intégrées, qu'on fait appliquer par des gestionnaires de cas. Suffit-il d'avoir une bonne grille et un bon gestionnaire de cas pour que les ressources suivent, que les réponses aux besoins se déroulent comme un tapis, que les intérêts corporatistes et professionnels, les intérêts des organisations et des chasses gardées s'harmonisent tout à coup? Autour de quelle légitimité? Autour de quel leadership? Celui de l'agence? Celui du CSSS? Comment éviter que la bataille se mène entre ressources privées et publiques? Comment pourrions-nous ouvrir un nouvel espace de négociation, un nouvel espace de collaboration, où chaque partenaire aurait l'impression, la conviction d'être reconnu à sa juste valeur par les autres, où les acteurs présents seront incités à s'engager publiquement, à servir le bien public, à servir la valeur publique, à contribuer à leur manière, leur juste part, des services, des milieux à soutenir, contribuer justement et être en contrepartie d'une rétribution juste. Qui décidera de la nature des services, de la qualité des milieux qui répondront aux besoins des personnes vieillissantes? En plus d'évaluer les cas, il faudrait évaluer les réponses. Si on veut vraiment avoir une approche de promotion de la santé, de prévention des problèmes, il faut travailler sur les milieux. Les milieux de vie, les réseaux de services, les réseaux d'entraide, les réseaux de vie, les réseaux de voisinage. Jusqu'où le parti pris du maintien à domicile contre l'hébergement et l'institutionnalisation de trop rapide de personnes encore aptes, jusqu'où ce parti pris n'empêchera-t-il pas la naissance, le développement de ressources répondant aux besoins moins urgents, moins liés à des handicaps ou des maladies bien mesurées, mais qui pourraient être source de vie, de vitalité, de santé? Est-ce qu'il ne reviendrait pas aux résidences offrant actuellement des services aux personnes en légère perte d'autonomie d'articuler services à domicile et services d'hébergement léger, d'articuler finalement une offre de services sur toute la gamme des besoins, de façon à pouvoir maintenir un lien de confiance, de façon à pouvoir complémenter l'offre en fonction d'une évolution dans le temps vers plus de handicap, ces ressources ayant une offre de service plus souple, plus continue finalement par rapport à celle du secteur public qui se voyait contraint de ne répondre qu'aux cas les plus lourds par manque de ressources. Mais aussi parce que il avait à charge la population la plus handicapée, la plus institutionnalisable, alors que les réseaux privés pouvaient se concentrer sur des clientèles ayant des moyens de répondre à une partie de leurs besoins, des clientèles plus autonomes qui sont capables de dire, de choisir ce qu'elles veulent, y compris des formes d'hébergement et de services adaptés à leurs désirs, à leurs choix. Une réponse à des besoins qui sont parfois essentiels et protecteurs, générateurs de santé, comme une bonne nutrition, comme un minimum de relations sociales, ce qu'implique nécessairement, ou presque, le fait d'habiter dans un ensemble collectif fournissant repas. Si vraiment il y a tant de personnes qui sont hébergées par le réseau public à Montréal, qui ne devraient pas l'être, on pourrait sans doute expérimenter des formes de soutien plus léger, des ententes avec des entreprises ou des nouvelles institutions qui offriraient ce niveau moindre de sécurité support, mais permettrait de libérer les places en CHSLD. On l'expérimenterait en même temps. Différents modes de fourniture de services pour ces clientèles moyennement lourdes, qui seront sans doute celles les plus nombreuses et les plus coûteuses de l'avenir. Je me demande comment on pourrait préparer le terrain, stimuler la réflexion, non seulement la réflexion, mais les pratiques, l'ouverture des pratiques, se préparer les muscles, non pas pour la bataille, non pas pour la négociation, mais bien pour le développement, pour l'expérimentation, pour la création, pour dire clairement ce qu'on fait, ce qu'on vaut, ce qu'il faut, ce qu'on veut, pour s'ouvrir à la discussion avec la clientèle, mais aussi avec les familles des clientèles, puisque c'est à ce niveau que les plans de service se négocient finalement, ultimement. Comment offrir une palette de réponses qui soit suffisamment agréable pour inciter certaines personnes à sortir du réseau des CHSLD. Ce serait une victoire en termes d'offres, à savoir les clients eux aussi reconnaîtraient la pertinence du service offert par rapport à ce qu'ils ont actuellement. C'est parce que les milieux seront bien adaptés, stimulants, plus que ces mouroirs que sont devenus, que deviennent peu à peu les CHSLD publics, pour des populations qui doivent recevoir un profil de service plus léger. Si on investit 100 millions demain, et peut-être 500 millions dans 4 ou 5 ans, mais qu'avec ce 100 millions-là, on compte transformer sensiblement le mode de fourniture de services, et qu'on souhaite changer la donne dans l'articulation service public, service privé, résidence, service à domicile, en fait service, peu importe le lieu de résidence, comme on dit, si les changements semblent mettre en péril ce que certains appelleront le confort de l'organisation actuelle du travail, ce que d'autres appelleraient simplement la sécurité, la qualité minimale d'un service qui est encore à définir, qui s'est plutôt défini par des pratiques très médicalisées, très nursingisées, sans être hospitalo-centriste. C'était quand même des pratiques liées à la sortie de l'hôpital, liées au traitement infirmier, traitements et soins infirmiers. Alors que si on veut vraiment faire un suivi à long terme, avoir une approche préventive, avoir une approche de non seulement de traitement des maladies chroniques, mais de prévention et de lutte contre l'apparition des maladies chroniques, il faudrait peut-être éviter que les ambitieux projets de réforme s'épuisent à rassurer les actuelles organisations de services.
Je suis contente, je voulais juste savoir.